Cuba, une île à part à seulement 100 km de la Floride. Et ce soir, on va dans le Cuba des champs où poussent le tabac, les mogotes, la musique et même les écrivains. Je vous attends avec Patrick Barr ce soir à partir de 21h.
France Inter. La différence.
15h et tout juste 4 minutes sur France Inter. Je vous laisse avec Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
À la mode. Comme elle désire suivre la mode, ma femme a pris deux décisions. L'une de s'acheter un gode, l'autre de tailler sa toison. Quand elle joue de l'ustensile, délicatement je m'efface, mais chaque fois qu'elle s'épile, bon Dieu, c'est moi qui tiens la glace. C'était Georges-Philippe Tartenouille, poète local en Bretagne.
Salut Mermet, salut toute l'équipe. Quelle bouffée d'oxygène après la lacrymo-bombe bien de chez nous. Tu as passé la chanson de Souchon, pardon. Et à vous écouter, ça me rappelle j'ai 10 ans. Oui, la hulotte, pour moi, ménagère de plus de 50 ans, ça me régale depuis quelques décennies, et j'ai passé ce doux virus, je crois, à mes gamins. C'est bon, un instinct qui sait intéresser les enfants, les intéresser, exciter leur curiosité, entretenir leur capacité d'enchantement, et par là même continuer à émerveiller les grandes personnes. Salut donc de ma colline où une hulotte égaye parfois mes nuits. Merci pour ce moment de douceur dans ce monde de brutes, enfin. C'est Marie d'Anduze.
Oui, bonjour tout le monde. Au sujet de la hulotte et de son rédacteur en chef qui trouve les sujets juste à côté de chez lui. Il y a quelques semaines, avec ma copine, on est allé marcher en forêt, comme on fait régulièrement, un dimanche matin. Et puis, donc, on s'est avancé dans la forêt. Au bout de quelques instants, on a entendu des petits grognements. Donc on est resté sur place et écouter ce qui se passait. On a vu trois petits marcassins sortir d'un fourré, mais vraiment des tout petits. Hein. On en avait déjà vu des plus grands, mais là, ils étaient vraiment tout petits. Et apparemment, il n'y avait pas la maman, donc on a attendu, personne n'est arrivé. Donc il y a les trois marcassins qui étaient là. Ils se sont approchés de nous. On aurait presque pu les toucher. Et puis après, ils sont repartis. Visiblement, ils se sont aperçus qu'on n'était pas leurs parents. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil de la nature en fin d'hiver et tout début de printemps. Trois petits marcassins comme ça qui se promenaient dans la forêt. La nature à côté de chez soi, et ça fait toujours plaisir. Voilà, salut.
Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Eve et je suis de Réseau Éducation Sans Frontières dans le Rhône. J'ai reçu un message ce matin d'une amie qui est marraine d'un petit garçon et je voulais vous le lire. Voilà, donc aujourd'hui à 7h30, je viens d'apprendre la mort de Yves, le père de Junior, mon filleul RESS. Yves est mort 3 ans jour pour jour après son expulsion. Dès son retour forcé au pays, il est tombé malade. Paludisme, fièvre diverse. Sa femme Sylvie travaillait comme une folle pour lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse se soigner. Cela n'aura servi à rien. Il est mort loin de son fils et de sa femme. Ils avaient tout pour être heureux en France. Ils se sont mariés légalement en France en 2002. Yves avait un titre étudiant et avait un petit garçon. Junior commençait à apprendre à vivre avec l'expulsion de son père sous ses yeux. Maintenant, il va falloir que Sylvie lui annonce la mort de son papa. Au nom de quel principe, au nom de quelle loi, on peut faire vivre de telles horreurs à des gens qui ont choisi notre pays pour y construire leur vie? Ce matin, j'ai vraiment honte d'être française. Voilà ce qu'a écrit Catherine, qui est marraine du petit Junior. Et en PS, elle met... Si elle en a encore envie, il faudra que tout le monde se batte pour la régularisation de Sylvie. Voilà, donc s'il y en a qui veulent donner un peu un coup de main à Sylvie pour sa régularisation, n'hésitez pas à contacter RESF 69. Et je voulais juste aussi vous dire le titre du mail qui parle de lui-même et qui représente bien la politique d'immigration actuelle. L'expulsion tue. Voilà, c'était Eve. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Cédric, là on est devant le CRA, le centre de rétention administrative de Vincennes, la prison quoi, la prison pour sans-papiers. On est une bonne cinquantaine là avec la sono et tout, il y a du monde, il y a des prises de parole et de la musique pour soutenir les retenus, il y a les détenus qui sont à l'intérieur, il y a des Tunisiens, des Égyptiens, des gens d'Afrique de l'Ouest, enfin on sait, hein. Voilà. Au revoir Daniel. Salut Daniel, c'est Cédric, là, on est devant...
Oui, salut Daniel, salut à la bande. Ici, c'est Patrice, j'appelle un petit village des Côtes d'Armor. Autrefois, une chanson disait ceci, « C'est nous, les gars de la marine !» Faites bien attention, messieurs les sondeurs, messieurs les faiseurs et les défaiseurs d'opinion, prenez garde, quand un jour nous serons vraiment les gars de la marine Le Pen, que vous ne puissiez plus faire ou défaire l'opinion de quiconque. Et voilà. Allez, salut les fous, à bientôt.
Et merci pour ces gars de la marine. Et ouais, c'est nous les gars de la marine. Une vieille chanson remise au goût du jour par tous ceux qui, voyant tourner le vent des sondages, se disent qu'après tout, avec cette marine, on pourra tout à fait s'entendre si on ne parvient pas à lui repiquer sa clientèle d'ici là. Eh ouais, c'est nous, les gars de la marine. Rarement le cynisme politique se sera exhibé avec autant d'indécence que dans l'accueil enthousiaste fait à Éric Zemmour récemment à l'Assemblée nationale. Et je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Notre thème du jour, c'est les chroniqueurs. Qui sont ces chroniqueurs ou gros-niqueurs, comme vous voulez, qui, chaque jour, nous disent ce que nous devons penser. On va revenir sur l'histoire de ces gens-là. Depuis très, très longtemps, ils opèrent chaque matin, souvent, à la radio. Mais vous allez voir que c'est toute une histoire qui va nous occuper aujourd'hui. Mais je veux parler d'Éric Zemmour et de la liberté d'expression. Chroniqueur, donc, Éric Zemmour a été condamné par la justice le 18 février 2011 pour, je cite, « provocation à la discrimination », ce qui lui a valu d'être triomphalement reçu à l'Assemblée nationale par, notamment par Jean-François Copé et le groupe UMP. Rappelons qu'en mars 2010, à la télévision, alors qu'il était question des contrôles aux faciès, Éric Zemmour justifiait ces contrôles policiers en disant, c'est, je cite, « parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est un fait ». Éric Zemmour est coutumier de ce genre de provocation, c'est son petit fonds de commerce à lui, et pour les noirs et les arabes trafiquants, il a été évidemment incapable de fournir les preuves de cette affirmation. En France, faut-il le rappeler, les statistiques ethniques et raciales sont anticonstitutionnelles. Et surtout, Éric Zemmour a soigneusement omis de faire le moindre lien entre les délinquants et la situation sociale où ils sont relégués. Aussi, chacun comprend le message. S'ils sont délinquants, c'est parce qu'ils sont noirs et arabes. C'est clairement pour cette provocation à la discrimination raciale qu'Éric Zemmour a été condamné. Et aussitôt, surprise quand même, il est devenu un héros pour l'UMP, le parti du président de la République, plus précisément du courant droite populaire qui a pour mission de renforcer la fermeté en matière de sécurité et d'immigration, un courant de droite dur destiné à faire des passerelles avec le Front National en vue des élections présidentielles de 2012. Avec Jean-François Copé, ses députés ont invité Éric Zemmour à l'Assemblée nationale avec enthousiasme et on a eu un déferlement de propos du type terrorisme intellectuel, pensée unique, bien-pensance. Tous condamnent la condamnation et ceci avant tout au nom de la liberté d'expression. Oui, Éric Zemmour est victime des ennemis de la liberté d'expression. Et c'est un sujet qui revient souvent dans cette émission, notamment dans le film que nous avons réalisé sur Noam Chomsky en 2008. Nous avons consacré une longue séquence au thème de la liberté d'expression et sur la toile des sites d'extrême droite et néo-réactionnaires qui soutiennent Zemmour font référence à Noam Chomsky et utilisent même des passages de notre film. Je voudrais dire que cette récupération n'est pas acceptable et voici pourquoi. Dans sa défense de la liberté d'expression, Noam Chomsky, avant tout, n'oublie jamais de séparer très clairement le contenu et l'expression. Autrement dit, la liberté d'expression n'a rien à voir avec ce qui est exprimé. C'est le principe attribué à Voltaire, que vous connaissez. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer. Ça va encore plus loin, c'est « je ne sais pas du tout, je ne me soucie pas du tout de ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer ». Défendre la liberté d'expression, ce n'est pas défendre ceux dont nous partageons l'opinion et qui sont poursuivis. Ça, c'est la défense d'une opinion. Défendre la liberté d'expression, c'est défendre l'expression de l'opinion adverse, même si cette opinion nous répugne, dit Chomsky. Et cet esprit fait partie des lois aux États-Unis et même inscrit dans le premier amendement de la Constitution. Défendre la liberté d'expression, c'est laisser parler Pol Pot, c'est laisser parler Ben Laden, c'est laisser parler le diable et le bon Dieu, c'est dire qu'aucune loi ne peut les faire taire, c'est dire que ce n'est pas à l'État de dire la vérité en matière d'histoire ou en matière d'idées. Ces idées, ces discours doivent être débattus, combattus, défendus dans le cadre du débat public, sur la place du forum, sous la coupole savante, tout comme au troquet du coin, dans les colonnes des journaux, dans les assemblées populaires, dans les dessins, dans les chansons, calmement si possible, mais tant pis si c'est pas toujours calme. Et on voit que ceux qui invoquent aujourd'hui la liberté d'expression avec tant de trémolo dans la voix n'étaient pas là pour défendre la liberté d'expression d'un Edgar Morin, qui fut poursuivi pour incitation à la haine raciale, suite à un article critiquant la politique israélienne publiée dans Le Monde. Il n'était pas là pour défendre la liberté d'expression du journaliste Denis Robert, poursuivi des dizaines de fois et qui vient d'être définitivement blanchi. Et on ne les a pas entendus se prononcer pour la liberté d'expression du couturier John Galliano, licencié par son employeur Dior pour des insultes à caractère racial qu'il aurait proférées, que ces défenseurs de la liberté d'expression se portent immédiatement au secours de John Galliano. Là, ils défendront vraiment, ils seront cohérents avec eux-mêmes. Aujourd'hui, avec un parfait cynisme, les défenseurs de Zemmour se cachent derrière la défense de la liberté d'expression pour, en réalité, soutenir l'opinion de Zemmour, c'est-à-dire soutenir la discrimination à l'égard des Noirs et des Arabes. Vous me direz, mais non, vous allez trop loin. Ces braves gens ne sont pas racistes. Ils ont des amis noirs et peut-être même une femme de ménage arabe. Sans doute, mais ils ont peur, ils ont très peur. Le Front National est en tête des sondages, dit-on, c'est la panique à l'UMP, et tout est bon pour envoyer des signes à l'électorat xénophobe du Front National. Rappelons tout de même qu'il s'agit là d'élus, d'hommes et de femmes qui détiennent des pouvoirs que nous leur avons conférés, et qui agissent et prennent des décisions en notre nom. Ce ne sont pas des personne quelconque. Voilà ce que je voulais dire sur la liberté d'expression. Vous pouvez vous référer à ce film sur Chomsky et compagnie. Il y a une longue séquence qui est consacrée à ce thème de la liberté d'expression. Donc, qui sont ces chroniqueurs ? Éric Zemmour en est un. Eh bien, on va voir aujourd'hui qu'ils ont une longue histoire à la radio. On va se contenter de la radio. Et on va commencer avec un message qu'on avait reçu il y a quelque temps déjà et qui va vous évoquer certains souvenirs.
Allio Marie, boniment. Julien Coupa, 5 mois de prison sans qu'aucune preuve ne puisse établir sa culpabilité.
C'est marrant, c'est formidable hein, ce message, ce dernier message qu'on vient de recevoir avec le bruit le plus fameux de l'histoire de la radio. Ta-ta-ta-tan. Extraordinaire. Eh bien, c'est signé de quelqu'un. Il y a un auteur à ces notes et il s'appelle Pierre Dac. Et Pierre Dac était bien sûr l'humoriste, le poète, et, hein, mais vous le savez aussi, un très grand résistant puisqu'il était à Londres auprès du général de Gaulle et que depuis Londres, il envoyait ses fameux messages et ses Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Pourquoi vous parlez de Pierre Dac aujourd'hui ? Ben parce que notre heure va tourner autour d'un homme comme Pierre Dac. Et qui va tourner autour de Pierre Dac ? Eh bien, ce sont les chroniqueurs, qu'on pourrait appeler aussi les chroniqueurs. Avec Norbert Vallée, on a voulu se pencher sur ceux qui, chaque jour, nous disent ce que nous devons penser, qui, à notre place, s'érigent, se lèvent contre l'inacceptable, contre le désordre, contre les jeunes gens qui salissent les cabines téléphoniques, contre les chiens qui laissent des déjections sur la voie publique, ou encore pire, contre les communistes. Je veux parler effectivement de ces chroniqueurs qui, durant des années, la plupart d'entre eux restent très longtemps à l'antenne, eh bien nous ont dit ce qu'il fallait penser. Ils sont des personnages très importants, des rouages très importants dans la fabrique de l'opinion, et la plupart sont oubliés. Connaissez-vous Jean Nocher, Geneviève Tabouille, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Michel Droit, Georges Delamare, Saint Granier. Eh bien, ils sont les ancêtres de nos actuels chroniqueurs, des Philippe Meyer, les Jean-Marc Sylvestre, les Alexandre Adler, les Bernard Guetta ou d'autres. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Comment fonctionne leur argumentaire ? Quelle est l'incidence de ces interventions sur notre façon de penser, sur l'évidence, sur la doxa, comme on dit, c'est-à-dire ce qui va de soi. Ça nous a intéressé de revenir en arrière et de commencer par ce bruit de casserole venu de Londres et qui combattait quelque chose, qui résistait à quelque chose et qui résistait à certains de ces chroniqueurs ou chroniqueurs.
Autrefois... En direct avec vous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bastille, j'y suis avec Norbert Vallée. Attendez-vous à savoir chroniqueur et chroniqueur. Flight number two,
arriving from New York. Geneviève de Demain, mesdames, messieurs. Attendez-vous à savoir.
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel.
Il y a encore deux ou trois ans.
Nombreux sont les congressmen qui ne manquent pas d'humour au Capitole.
Il faudrait pourtant inspirer une équivoque quand s'attiennent complaisamment les communistes. Ce mot de libération dont ils se gargarisent et nous rebattent les oreilles. Quel sens lui donne-t-il ?
Chaque fois qu'un parlementaire avait fait un discours qui n'avait manifestement pour objet que de complaire à ses électeurs...
Il n'y a pas d'ingénieur capable de maîtriser la sottise des gens. Nos technocrates ne sont pas des psychologues.
Sa confiance plutôt que ses intérêts.
Le coût global de la République est devenu insupportable à l'économie française. Qu'on le veuille ou non, et ça c'est ni de droite ni de gauche, elle n'a plus les moyens de consacrer plus de 50%.
Non, 51%, oui, 49%.
La radio n'est pas toujours un fleuve tranquille, il y a des voix qui vous parlent plus que d'autres. Parmi celles qu'on vient d'entendre, il y a celles qui vous disent quelque chose, qui suscitent de terribles, terrifiantes nostalgies, et d'autres qui vous disent rien du tout, qui ne parlent à personne. Et pourtant, beaucoup de ces voix que vous entendez, celles de Geneviève Tabouille, celles de Michel Droit, celles de Saint-Granier, celles de Jean Nocher, etc., eh bien, pendant des années, sont intervenus sur les antennes des radios et essentiellement de notre radio, de la radio nationale. Les voix les plus fameuses. Alors vous allez dire, mais des voix, on en a beaucoup. Mais ce qu'on a choisi avec Norbert, c'est de vous faire entendre les chroniques et les chroniqueurs politiques, les éditorialistes, ceux qui chaque jour donnent le ton, ceux qui... dans leur façon de parler, oscillent, hésitent entre le curé et le tribun, entre le sermon et le discours, et qui, chaque jour, chaque matin, chaque soir, nous disent inlassablement ce qu'il faut penser, qui se dressent pour défendre la morale et le bon sens. Les voix indispensables qui éclairent nos chemins, qui nous disent le mal et le bien, et qui bien sûr sont, se savent et se prétendent indépendantes, vigilantes, impertinentes, et qui se veulent pédagogiques, informées, accessibles, équilibrées. Mais que disent-elles au juste ? Que disent-elles au juste ? Eh bien, curieusement, ces voix qui ont parlé à des millions et des millions d'auditeurs et qui continuent aujourd'hui, parce que cette histoire continue, ces voix continuent, se perpétuent, eh bien, il n'y a aucune critique, aucun appareil critique. Combien trouverait-on d'études universitaires sur le sens de ces voix, sur le sens de ces propos, sur leur incidence, sur l'opinion, sur la fabrique de l'opinion ? Curieux, non ? Curieux. Il a fallu qu'on creuse avec Norbert dans les archives, grâce à Lina, grâce à nos astuces aussi, on a pu retrouver un certain nombre de ces chroniqueurs. On va voir que, contrairement à ceux qui s'inquiètent de certaines chroniques qu'ils jugent trop subversives ou trop drôles ou trop à gauche, que jusque-là, en tout cas, ça n'a pas été le cas. La plupart de ces chroniqueurs sont des conservateurs, voire même des gens franchement réactionnaires, qui réagissent à l'ordre du temps, au mouvement du temps et, pourquoi pas le dire aussi, à l'opinion telle qu'elle marche. On va en avoir la preuve. Et puis, il y en a d'autres qui sont très judicieux, qui ont deviné leur époque, qui sont en phase avec l'époque, et d'autres qui, enfin, apportent des analyses très claires, très, très éclairantes et qui font leur métier. Voilà, c'est notre sujet du jour. Attendez-vous à savoir. C'était la façon dont Geneviève Tabouy s'adressait au public. Elle a fait ça pendant des années et des années. C'est presque plus de la musique que du sens. C'est jusqu'à 16h. C'est la basse édition.
Chaque jour comme une compagne, c'est ma radio qui m'accompagne.
L'animateur, comme un ami, vient chasser ma mélancolie quand je suis seule, quand je m'ennuie.
Comme tous les conducteurs, j'écoute en voiture inter-service route.
Pour rouler, je ne m'en fais pas, on me tire toujours d'embarras sur bagatelle 33-33.
Sur la route de nos vacances, nous écoutons Intervacances.
Sur les chemins de notre été, sur les plages ensoleillées, sans trop penser à la rentrée.
France Inter, jour et nuit, c'est la radio que je préfère. France Inter, jour et nuit, c'est la radio que je préfère.
Nous ne nous connaissons pas bien. Vous savez qui je suis ? Je m'appelle Donna. Je suis psychothérapeute.
Je m'appelle Emmanuel. C'est vous qui allez vous occuper de moi, jour et nuit.
Your life, there's a time for love. Oh, my baby.
Ah, 1975, Emmanuel. L'année érotique 69 a eu des suites. Et ce début des années 70, le monde bascule, tombe à la renverse ou à quatre pattes, comme vous voulez. C'est la révolution sexuelle en France. Et pas seulement en France, avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 au pouvoir et son libéralisme, eh bien ce sera ce libéralisme-là. L'autre sera le libéralisme économique dont nous connaissons aujourd'hui les suites. Tout simplement, cette libération sexuelle est due à des découvertes concernant le contrôle des naissances qui va permettre aux femmes de jeter leur bonnet par-dessus les moulins et à tous d'en profiter, puisqu'il y aura dans l'histoire de l'humanité une toute petite parenthèse durant laquelle on contrôlera les naissances et on ne craindra pas d'attraper la mort en faisant l'amour. Très bien, tout ça, vous le savez. Mais il y a quelqu'un qui se battait contre ça. Tous les jours sur France Inter, entre 1969 et mai 1981, c'est-à-dire durant 12 ans, Michel Droit, un journaliste ouvertement réactionnaire, partisan de l'ordre et de la vertu, cette phrase étant du Figaro, le journal où il travaillait, qui le qualifiait de journaliste ouvertement réactionnaire, partisan de l'ordre et de la vertu, eh bien, tous les matins, Michel Droit se levait et se battait contre cette déchéance, contre ce déclin. Il avait été héroïquement l'intervieweur du général de Gaulle entre 1965 et 1969, et il est emblématique, disons, de ces chroniqueurs. Il est le chroniqueur par excellence. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cette voix grave, très bien portée, et qui, ce jour-là, part en guerre contre les moulins à vent.
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel Droit.
Il y a encore 2 ou 3 ans, quand l'un d'entre nous annonçait, en s'appuyant sur quelques exemples d'ailleurs faciles à distinguer, l'arrivée imminente de la vague nauséabonde du cinéma pornographique, on lui riait au nez, on le montrait du doigt et on le présentait comme un père la pudeur complètement rétrograde, un Cassandre débile, s'affolant pour presque rien, pour une moitié de fesse ou pour un quart de beurre, et ne faisant au fond qu'attirer l'attention sur quelques manifestations tout à fait négligeables dont nul n'aurait jamais parlé si nous autres n'avions pas commencé à le faire. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vu juste, et ce n'était d'ailleurs pas très sorcier, et même d'avoir eu raison au-delà de ce que nous pouvions craindre, ne nous réjouit nullement. Car c'est vrai, nous en sommes arrivés à ce point que depuis mercredi dernier en tout cas, l'affaire est devenue une affaire d'État. Nous n'en espérions, ou plutôt, nous n'en redoutions pas tant. Car j'ajoute que si l'on nous riait au nez quand nous annoncions ce qui est arrivé, on nous présentait aussi comme les ennemis réactionnaires et répressifs, allons-y carrément, de la plus élémentaire liberté d'expression. Or, je vais vous dire une chose. J'ai personnellement fait partie, pendant plusieurs mois, de cette fameuse commission de contrôle des films, qu'on appelle aussi parfois commission de censure. Je puis vous dire que lorsqu'il m'est arrivé de demander, pour la modeste part qui était la mienne, qu'on épargnât au public tel film particulièrement obscène et dégradant, je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu le sentiment de porter la moindre atteinte à la moindre liberté d'expression, pour l'excellente raison qu'il n'y avait aucune forme d'expression dans ce genre de film, mais simplement l'étalage d'une sorte de vomissure. Et pourtant, à ce moment-là, nous n'en étions pas au hardcore, où l'on nous montre aujourd'hui, vous le savez, sur l'écran, des actes sexuels réellement exécutés, et en général parmi les plus gracieux, je passe. Je sais bien que la liberté ne se divise pas. C'est une très belle formule. Seulement, la liberté ne devrait pas non plus pouvoir se prostituer. Or, si pornographie dérive bien du grec « porné », qui signifie « la prostituée », ce n'est à rien d'autre qu'à une prostitution de la liberté d'expression que nous assistons lorsque le droit est accordé d'envahir nos écrans, nos salles, nos quartiers, nos journaux, par l'intermédiaire de la publicité, à des films produits et réalisés par des gens qui ne font donc rien d'autre qu'un métier de proxénète et interprété par des chevaliers et des chevalières à la triste fesse qui ne font rien d'autre que de prostituer ce qui leur sert de corps, non pas entre les quatre murs d'une chambre d'hôtel de passe, mais sur un écran devant des milliers de spectateurs. Il est donc évident que même si le gouvernement le déplore, le moment est venu pour lui, et c'est ce que l'immense majorité de l'opinion lui demande, le moment est venu pour lui de donner, sans doute un peu tard, mais raison de plus pour ne pas tarder davantage, le coup d'arrêt à la liberté, non pas de s'exprimer, mais à la liberté de l'obscénité. Le coup d'arrêt au sinistre étalage du vice, au sordide jaillissement de... Enfin, bref. Alors, bien sûr, il faudra pour cela passer outre au tortillement d'intellectuels en délire, toujours prêts à confondre les fleurs du mal avec les jouisseuses volcaniques et à prolonger de 6 lettres le prénom de Madame Bovary pour essayer de faire croire qu'elle s'appelait Emmanuel. Bien sûr, il faudra rester sourd aux hurlements de ceux qui ont trouvé un moyen facile de faire fortune en produisant de la mousse d'ordure et en permettant la dégustation de celle-ci pour le prix d'un fauteuil de cinéma. Bien sûr, il faudra revenir sur ce faux libéralisme, peut-être généreux, mais sûrement imprudent, et dont les bénéficiaires ont été incapables de ne pas abuser. Mais je crois que cela en vaut la peine, pour d'évidentes raisons de salubrité publique, d'abord, et aussi de vraie liberté, la liberté de nos regards et la liberté de nos choix. À samedi prochain.
Femmes qui parlaient dans les radios, on devine derrière vos voix des yeux, des visages, des seins, des jambes, une façon de respirer, de porter la poitrine, la façon dont elles se soulèvent pour faire penser à la mer. Il y a l'accent. C'est bon l'accent. C'est tout un pays qui sort d'une bouche, avec ses maisons, ses forêts, ses sentiers, ses usines. Et puis dans les voix, toutes les angoisses. D'où viens-tu? Où veux-tu? Quelqu'un m'aime-t-il? Est-ce que j'existe pour quelqu'un? Voix chérie, tendre, dorlotée sur les micro-sillons du rêve. Parfois, il vaut mieux n'entendre que les voix et ne pas vouloir voir le visage, ne pas vouloir percer le secret. Laissez parler les voix par le masque de la radio.
Au Vélodrome d'hiver, 30 000 Parisiens de toute classe sociale assistent à une manifestation monstre affirmant leur volonté de faire bloc contre le bolchevisme et de recréer l'ordre français. Se succède à la tribune Joseph Darnan.
Toute la France, des troupes qui sont prêtes à se battre. Nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël.
Jean-Hérold Bacchi.
Il n'y a pas de solution boiteuse. Françaises et Françaises, on vous demande d'être assez courageux, assez décidés, assez français pour tout dire, pour prendre parti. Il faut être avec les légionnaires du front de l'Est contre les assassins du front de France. Ou bien alors, il faut entrer et le dire, entrer dans le camp du terrorisme contre la patrie. Mais il n'est pas possible d'être hésitant entre les deux. Ou la France sera exsangue sans libération, ou elle sera libérée des tueurs moscovites.
Philippe Henriot.
Pour vous exciter au meurtre, à la vengeance, à la haine entre Français, ce sont les fourriers de la guerre civile. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise en français, c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'usage des imbéciles.
Alors on a commencé avec Michel Droit, dans les années 70, donc il fut sans doute le plus emblématique des chroniqueurs radiophoniques. Il faut rappeler qu'il a été élu à l'Académie française, au fauteuil de Joseph Kessel. Il est décédé aujourd'hui, ce Michel Droit, dans des conditions assez étonnantes. Mais revenons à ceux que vous venez d'entendre, les deux que vous venez d'entendre, qui, eux, ont été aussi emblématiques, mais quand même d'une autre époque. Il s'agit de Jean-Hérold Bacchi et de Philippe Henriot. Ils ont été les voix de cette fameuse Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Eh bien, c'était ces voix-là, c'était les voix de ces deux Français, Jean-Hérold Bacchi et Philippe Henriot. Philippe Henriot était le porte-parole, le secrétaire d'État à la propagande au temps du gouvernement du maréchal Pétain de Vichy. Et Jean-Hérold Bacchi, lui, était ouvertement un collaborateur, un collaborationniste, comme on disait à l'époque. Ils avaient une tribune très importante, la radio était très écoutée dans ces périodes, et ils eurent beaucoup d'impact sur l'opinion et sur le public, luttant quotidiennement contre les Anglais, contre les francs-maçons, contre les Juifs. Tous deux ont été fusillés à la Libération. Il est intéressant de revenir sur une des chroniques de Philippe Henriot qui s'attaquait à qui donc à Pierre Dac ce jour-là dont nous venons de parler. Philippe Henriot sur Pierre Dac.
Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire pierre promise à exploiter, il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être poussée à l'extrême lui firent une clientèle. Tout ce qu'il y avait chez nous décidé de ne rien prendre au sérieux, tout ce qui essayait d'échapper à la redoutable étreinte d'un devoir sévère par une sorte de blague grossière et épaisse, se rua pour l'écouter et le lire. Et je n'ai jamais vu sans une amère inquiétude une jeunesse, certes amie de la plaisanterie sans arrière-pensée, prendre plaisir à une littérature de bas étage, dont les farantes nullités barbouillées hâtivement d'une caricature d'esprit enchantaient son goût de la parodie et de l'irrespect. Comme il devait se frotter les mains, le jeune Isaac André, à voir qu'il pipait à son gluot infâme des étudiants, de futurs intellectuels dépravés par ses soins. Son nom était célèbre, et dans la France de 1939, tel qu'il ne connaissait pas le nom de Branly, connaissait celui de Pierre Dac, l'homme illustre de l'os à moelle, dont tant de Français faisaient en effet leur pâture hebdomadaire et qu'ils s'arrachaient au kiosque des journaux. Cet Isaac André était bien entendu prédisposé à fuir la France à laquelle en fait rien ne l'attacherait dès qu'elle se trouvait soumise à l'épreuve. Il ne trouva pas tout de suite le moyen de s'échapper. Le 16 novembre 1941, il allait pourtant passer en fraude la frontière espagnole aux environs de Bagnoul-sur-Mer quand il fut arrêté. Le 26 mars 1942, le tribunal de Céret le condamnait à un mois de prison et à 1200 francs d'amende. Il purgeait sa peine à la prison de Perpignan. Il avait bien entendu déclaré pour sa défense qu'il était en train d'excursionner dans la montagne quand il s'était égaré. Personne ne comprend mieux que moi cet Isaac en perdition. Ce loufoque qui avait industrialisé la loufoquerie n'avait pourtant pas perdu la carte, bien qu'il en ait dit. Et je ne me soucierai pas de ce faux Dac qui a depuis lors réussi à s'évader si Londres, décidément à court de speaker, ne l'avait chargé de me répondre.
Eh bien, la réponse vint de la part de Pierre Dac, l'auteur de tout un tas de feuilletons, de chansons et de sentences mémorables, du genre « il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau ». Pierre Dac, si là-bas était ici, Pierre Dac serait enseigné dans les écoles, ses œuvres seraient partout, et il serait un modèle d'une vie qui fut une vie à la fois poétique, c'est-à-dire une vie d'humour, mais aussi une vie politique, j'y faisais allusion, dans cet engagement qui fut le sien, dans la résistance. Et face à ce Philippe Henriot, Pierre Dac ne fait pas le martyr, ne se replie pas, mais debout, répond.
Radio Paris, Radio Paris. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand.
Veuillez écouter maintenant Bagatelle sur un tombeau. Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons, par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui, de surcroît, ne satisfait en rien notre curiosité, pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et nationale socialiste, je ne suis pas français. À défaut de Croix Gamée et de Francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samuel. Je me suis, par la suite, vendu aux Anglais, aux Américains et aux Soviets. Et pendant que j'y étais, je me suis également vendu aux Chinois. C'est absolument d'accord. Il n'empêche que tout ça ne résout pas la question. La question des Allemands. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout, mais tout de même, je suis persuadé que les Français seraient intéressés au plus haut point si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, le problème de la déportation et des camps de la mort. Deuxièmement, le problème des prisonniers. Troisièmement, le traitement des déportés et des prisonniers. Quatrièmement, le statut actuel de l'Alsace-Lorraine et l'incorporation des Alsaciens-Lorrains dans l'armée allemande. Cinquièmement, les réquisitions allemandes et la participation des autorités d'occupation dans l'organisation du marché noir. Sixièmement, le fonctionnement de l'agent français et en particulier les méthodes d'interrogatoire. Septièmement, les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l'anéantissement de la France. Peut-être me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Et ce disant, vous serez logique avec vous-même, puisque, dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, vous vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui ?» Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que cela signifie, l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne ? Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier.
Miliciens, moucheurs, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les paumis, vous les lâches, et les la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy,
c'est la complainte des nazis.
Même si l'on considère le taureau comme une bête sauvage,
un peu tard,
il s'agit d'un spectacle
pour ne pas
que je trouve attristant
le
pour des gens civilisés.
À la liberté de l'obscénité.
Nombreux sont les congressmen qui ne manquent pas d'humour au Capitole.
Vous régalez chaque jour de la voix de Bernard Guetta, d'Alexandre Adler. Vous regrettez Jean-Marc Sylvestre comme Philippe Meyer et d'autres. Mais vous savez, bien sûr, que ces grands chroniqueurs politiques, ces gens qui nous aident à penser, à nous éclairer dans la vie, eh bien, ils ont une histoire, ils ont des ancêtres. Et ces ancêtres, nous les écoutons aujourd'hui, certains grands chroniqueurs des radios et notamment de la radio publique qui, en leur temps, eurent des millions et des millions d'auditeurs. Et un nom comme celui de Jean Nocher, par exemple, Jean Nocher, qui lui s'inscrit effectivement dans cette tradition des chroniqueurs très très conservateurs. Il a opéré sur les antennes, je ne sais combien d'années Jean Nocher était présent. Un tout petit échantillon de l'art de Jean Nocher concernant Jean-Paul Sartre. En 1947, Jean Nocher écrit au sujet de Jean-Paul Sartre, je cite, « Enterrons cette pourriture et que la jeunesse se lève pour donner un autre souffle à la France, une morale qui ne mène pas à coup sûr au plagiat, au masochisme, à l'inceste, à la pédérastie, à l'opiomanie, à l'onomotopisme, à la psychasthénie scatologique, à la démence précoce, à l'impuissance psychique. L'heure va sonner où une autre école rendra à la France son vrai visage, un visage au regard droit. » Monsieur Jean-Paul Sartre, c'est du Jean Nocher. Il a évolué, mais est-ce bien sûr, le voilà parlant de la drogue.
En direct avec vous, voici Jean Nocher.
La France était jusqu'à présent un pays où l'on se droguait peu. Mais je vous avais mis en garde contre les dangers d'une certaine mode qui nous venait d'ailleurs de l'étranger, notamment par les beatniks et par certains milieux d'esthètes. Des orgies à la marijuana et aux stupéfiants avaient failli avoir des issues tragiques. Vous rappelez cette jeune fille trouvée agonisante et sauvée de justesse après une surboom consacrée à la drogue. D'urgence, le gouvernement avait pris des mesures pour réglementer la vente de certains médicaments utilisés par ces maniaques. Néanmoins, le fléau risque de s'étendre, puisque les policiers de la brigade mondaine viennent de saisir 25 doses de LSD, ce terrible produit qui rend fou, chez un couple éminemment responsable. elle 23 ans, brillante étudiante en sociologie, fille d'un haut fonctionnaire, lui professeur, agrégatif de philosophie, s'il vous plaît. Ils ont avoué cyniquement en déclarant qu'ils désiraient faire des expériences psychiques, probablement matière à un livre dont ils attendent sans doute la gloire littéraire, puisque maintenant on l'accorde volontiers aux anormaux et sadiques de tout genre. Ce sont en général des intellectuels qui se livrent à ce nouveau jeu diabolique. N'est-ce pas la preuve de ce que nous répétons ici si souvent ? L'intelligence sans la morale est dangereuse, car science sans conscience n'est que ruine de l'homme. À demain, bonsoir.
C'était Jean Nocher.
Alors, tous réacs, tous conservateurs, eh bien non. Il y a évidemment celui qui est allé à contre-courant, qui a donné sur la radio nationale des chroniques ébouriffantes, réconfortantes, loufoques, non sensiques pour tout dire. Il s'appelait Jean-François Noël. C'était jusqu'au milieu des années 60. Il avait commencé à la fin des années 50. Et, écoutez bien, ça s'appelait Les colères de Jean-François Noël.
François Mauriac a écrit un jour « La vieillesse est un naufrage ». Mais nous savons que la mort, dont la victoire est incertaine, aime bien aussi l'enfance et frappe n'importe où. Dans le monde, de toutes les futilités, de tous les vices, de tous les orgueils, de toutes les vanités, après tout c'est le mien, c'est celui que j'ai choisi. Dans le monde, de tous les trompe-l'œil et de la poudre aux yeux, dans celui du théâtre, du cinéma, de la radio, de la télévision, du cabaret, du music-hall ou de la mode, voire même du journalisme, et nous savons que c'est le pire, le facteur ne sonne jamais trois fois, et on lui ouvre du premier coup. La disparition soudaine, brutale, prématurée, de Maria Lopez, de Gérard Philippe et d'Henri Vidal, ne nous rappelle pas seulement que Dieu viendra comme un voleur, mais que les êtres les plus romanesques, les plus mythiques, n'échappent pas à la terrible loi de l'espèce. Il faut avouer toutefois que la bande magnétique, l'enregistrement de la voix humaine, l'image, sa couleur, son relief, son mouvement, prolonge le miracle de la vie, abolit les distances comme il abolit le temps, rapproche enfin les cœurs. Louis Jouvet, Dulin, Jules Berry, Pitoyev, Rému, Sacha Guitry sont morts depuis longtemps, mais qui peut vraiment, surtout parmi les jeunes, l'assurer ? Pour l'assurer, il aurait fallu les connaître vivants. En revanche, qui peut également assurer que Cocteau, Charlie Chaplin, Maurice Chevalier, Alice Cossea, Arletty ou Marlène Dietrich n'aient pas depuis longtemps disparu ? Vous les connaissez, vous ? Vous les avez vus, ces gens-là ? Vous connaissez leur appartement, leurs femmes, leurs enfants, leurs comptes en banque, leurs soucis, leurs drames, leurs parents ? Moi, pas ! Je ne connais que leurs images d'Épinal. Un paysan du Berry, qui n'avait jamais de sa vie été au cinéma, il fut poussé récemment par sa bru, ma propre belle-sœur, qu'à un cas, dans sa carriole, car il existe encore des carrioles au Berry, il consentit à s'enfermer dans une salle obscure pour y voir un film. C'était à Châteauroux, chef-lieu du département de l'Indre, 36 420 habitants, à l'Apollo, il y a 2 ans, en 1957, et quand il revint dans sa ferme, au lieu dit les Bouchures, qu'il n'avait pas quitté depuis 1918, entre Arton et la Châtre, en bordure de cette sombre dépression qu'on appelle la Vallée Noire, où les souvenirs de Madame George Sand sont encore si vivaces. Il eut ce mot assez extraordinaire. Le cinéma, c'est rien que des morts. Car pour lui, ce paysan du Berry, pour lui, le cinéma, ces photos noires et blanches, fussent-elles animées et fussent-elles parlantes, n'avaient de sens qu'intemporel. Le miracle du cirque, c'est qu'il a lieu tous les soirs et qu'il ne ferme jamais.
et que la musique continue.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Geneviève Tabouille.
Ce ne sera rien.
Les dernières nouvelles
juste
de demain. Mesdames, messieurs,
bruit.
Attendez-vous à savoir.
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel Blanc.
Les chroniqueurs et chroniqueurs, un hommage aussi à la radio, à notre radio d'ailleurs. C'était une émission préparée avec Norbert Vallée. Merci à Michel Droit, Philippe Henriot, Pierre Dac, Jean Lechet et Jean-François Noël. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et nous écrire des commentaires. Vous pouvez faire la même chose sur labas.org, la-bas.org, à part que sur labas.org, ça dure plus longtemps. Voilà. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, Kogi Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebotte et Marina Touillez. Attends vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
20 ans après la disparition de l'artiste, les éditions de Radio France présentent Les manuscrits de Serge Gainsbourg. Un portrait vivant de l'artiste au travail qui révèle la genèse de chansons mythiques, riches en documents rares.
Ouais.
Brouillons, partitions, dessins. Un objet collector unique et exceptionnel qui ravira tous les inconditionnels de Gainsbourg. Les manuscrits de Serge Gainsbourg, commentés par Laurent Ballandras, une coédition France Inter. France Inter présente Thomas Fersen, Je suis au paradis.
Quelquefois je l'admets, j'ai couché sous un pont, mais je n'avais encore jamais logé sous un jupon.
En tournée dans toute la France et à la Cigale à Paris du 22 au 30 avril. Retrouvez Thomas Fersen et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter.
Et de toute évidence, ici je suis au paradis.
Et sur franceinter.com.
À demain 15h pour la base, si j'y suis, les infos, Corinne Audouin, salut. On saura demain si le procès de Jacques Chirac est renvoyé. Le procès de l'ancien président s'est ouvert en tout début d'après-midi au tribunal correctionnel de Paris en son absence. Le parquet demande au tribunal d'accepter la question prioritaire de constitutionnalité. Une question qui est posée par l'avocat d'un des co-prévenus de Jacques Chirac et cela reviendrait donc à reporter le procès. Jacques Chirac est poursuivi ainsi que 9 autres prévenus pour avoir mis au point un système d'emploi fictif à la mairie de Paris. Des emplois qui servaient en fait à financer le RPR. Décision donc du tribunal demain. Un plan contre les violences faites aux femmes, c'est ce que vont présenter Claude Guéant et Roselyne Bachelot, ministre de l'Intérieur et des Solidarités. Ce sera le troisième du genre, avec 2 points importants, les violences sexistes et sexuelles au travail et un meilleur suivi de ces violences faites aux femmes. À la veille de la Journée internationale des femmes, Roselyne Bachelot rappelle que 140 femmes meurent chaque année en France sous les coups de leur conjoint. Bercy, victime d'une attaque informatique sur mesure et particulièrement sophistiquée selon les experts. Les pirates visaient notamment la partie gérée par la Direction générale du Trésor. Et selon le directeur général de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, il s'agit de l'une des plus importantes attaques ayant jamais visé l'administration française. Au 21e jour de l'insurrection en Libye, alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile, le secrétaire général de l'OTAN qualifie les attaques contre des civils de crimes contre l'humanité. Je ne peux imaginer que la communauté internationale et l'ONU restent
reste passive si ces attaques se poursuivent, a-t-il ajouté. Toutefois, l'OTAN n'a pas l'intention d'intervenir sans mandat de l'ONU. Sur le front humanitaire, les évacuations des travailleurs étrangers qui ont fui la Libye continuent. Le pont aérien mis en place par la France a ainsi permis le retour en Égypte de plus de 3700 personnes via Djerba, dans le sud de la Tunisie. Et en Tunisie, justement, le président par intérim vient de nommer un nouveau gouvernement de transition avec 5 nouveaux ministres. C'est le troisième gouvernement depuis la chute de Ben Ali le 14 janvier dernier. Et puis en Algérie, des milliers de gardes communaux manifestent aujourd'hui à Alger. Ils seraient plus de 10 000. Ils ont forcé plusieurs cordons de police pour marcher jusqu'à l'Assemblée nationale. Correspondance à Alger de Marie Euclin.
Ces gardes communaux manifestent principalement contre la dissolution de leur corps créé dans les années 90 pour aider l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ils se disent négligés par l'État et demandent des indemnités. Ce matin, plusieurs milliers d'entre eux ont réussi à déjouer le dispositif policier et à se rassembler devant l'Assemblée nationale. Cette manifestation illustre bien ce qui se passe actuellement en Algérie avec une multiplication des mouvements de protestation. Depuis près de 2 semaines, les étudiants de plusieurs grandes écoles se rassemblent presque tous les jours devant le ministère de l'Enseignement supérieur pour protester contre une réforme du système universitaire. Des chômeurs aussi ont organisé des rassemblements spontanés dans plusieurs régions du pays. Les autorités jusqu'à présent ont cédé à la plupart de leurs revendications économiques et sociales. L'Algérie, plus que jamais, est en train d'utiliser ses immenses ressources issues des hydrocarbures pour acheter la paix sociale. Mais cette paix commence à être de plus en plus précaire. Alger, Marie Euclin, France Inter.
Et puis en Côte d'Ivoire, les combats continuent, notamment dans le quartier d'Abobo à Abidjan. Trois personnes ont été tuées la nuit dernière lors d'une attaque de rebelles pro-Ouattara dans une enclave favorable au président sortant Laurent Gbagbo. C'est ce qu'affirme le gouvernement Gbagbo.
Tous les jours, à partir de 11h,
le fou du roi,
Stéphane Bern. Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Vincent Elbaz, Julien Leclerc et Anne Goscinny, rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
J'aurais pas dû en parler.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, Stéphane Bern.
Oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Et à 16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous avons un très grand visiteur, mais je vais lui dire bonjour dans 10 secondes. Je vais signaler d'abord que vous êtes invité au concert de Plaisir d'amour à la Maison de Radio France, au studio 106, à partir de 19h. Il faut venir un petit peu précédemment dans le hall de Radio France, 18h30. Donc, émission concert, c'est gratuit, dans la limite des places disponibles. Aujourd'hui, de 19h à 21h, Nima Sarkechik, pianiste, Jérôme Pernaud, violoncelle, Jérôme Ducrot, pianiste, l'ensemble contraste avec Karine Dehé, mezzo-soprano. Venez nombreux, 18h30 dans le grand hall de la Maison de Radio France, je serai heureux de vous voir. Et je suis aussi extrêmement heureux de retrouver, parce que c'est pas la première fois bien sûr, Michel Plasson. Bonjour Michel.
Bonjour.
Immense chef d'orchestre, une carrière gigantesque qui passe de Leipzig aux États-Unis en allant en Chine et au Japon, de Moscou à Milan, enfin tous les hauts lieux de musique connaissent la battue, la sensibilité de Michel Plasson. C'est un chevalier blanc, c'est le prophète de la musique française, mais pas seulement française. ça allait vous faire rire. Enfin bon, vous dirigez aussi plein d'autres œuvres, bien sûr, de Beethoven en passant par Borodine avec l'orchestre de Dresde, etc., etc. Mais quand même, vous avez évidemment cette image assez justifiée parce qu'aujourd'hui, on vous reçoit avec bonheur pour ce coffret Michel Plasson et la musique française avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse chez EMI Classics. Et c'est 37 disques de musique française. Alors, Michel,
c'est
pourquoi...
C'est une vie, hein. C'est... C'est une vie, une obstination, une idée fixe, comme disait Berlioz, celle de faire un orchestre à nos couleurs, à mes couleurs, aux couleurs de la musique de mon pays, et voilà. Mais je dois dire que parler musique, chevaucher avec vous, Frédéric, la musique et parler musique et vivre avec la musique après les nouvelles du monde, c'est un privilège absolument extraordinaire que tous vos auditeurs doivent apprécier. Parce que vraiment, quand on entend la nomenclature de l'état du monde actuel, la musique a de plus en plus d'importance. Et je suis étonné qu'on n'y attache pas plus d'importance encore.
Ça, c'est votre combat permanent. Et ouais. Vous dites d'ailleurs que vous trouvez bizarre que toute cette musique, et la musique française en particulier, elle soit un peu délaissée, et que finalement, dans cette mondialisation, où tous les orchestres se ressemblent presque, enfin, New York recommence à sonner comme Berlin, ou bien on trouve... Enfin, sauf, justement, quelques orchestres français, et l'orchestre du Capitole de Toulouse, que vous avez vraiment formé.
Et l'orchestre de Lyon, qui, d'une façon, je suis aussi sur les ailes de la musique avec le concert qu'on vient de faire hier au Théâtre de l'Opéra Comique avec l'Orchestre National de Lyon, qui est un orchestre plein de possibilités, plein de qualités, très très bien, comment dirais-je, avec lequel j'ai un contact affectueux. Et ils ont fait un concert hier qui me donne tellement de joie. Vous savez, la musique, quand on en est imprégné, vous savez mieux que personne, hein, Frédéric, tout ça. Et quand on est imprégné, on vit avec longtemps après, longtemps, longtemps, longtemps. Et on parle de la musique, de la belle musique, n'est-ce pas? Pas des tonnes d'ordures sonores. Non, je ne parle pas des informations, là, mais des musiques épouvantables qui tombent par l'intermédiaire de vos appareils, hein, ici.
De nos appareils,
ici
à tous.
Ici et là, tous, n'est-ce pas, sur la planète, et qui dégradent complètement le mot musique, qu'on a d'abord mis avec un S, et ensuite qu'on a attribué à des choses qui sont terribles. Je regardais, Ansermet a écrit un livre compliqué, qui a fondé l'Orchestre de la Suisse romande, et qui a été obstiné pour faire de cet orchestre à ce moment-là. Et par son obstination, par le choix du répertoire, par la qualité originale et originelle de ce qu'il faisait, a fait de l'Orchestre de la Suisse romande à cette époque un orchestre merveilleux. Et il a écrit un livre qui est très très compliqué, où il y a les trois quarts des pages sont des équations algébriques,
les mathématiques,
où
oui,
je ne comprends absolument rien, et qui la musique et les chiffres, c'est pas mon affaire en tous les cas. Et il dit, et quand on lui dit de définir ce qui n'est pas la musique, mais qui est aussi la musique maintenant, il dit la musique bête.